France Culture.
Աթոբդա զամթրիս բաղեպս, միխքոնդատ շավեք ուբո, դա շլիդա բայրաղեպս, թմագած էձելի քարի, գզայի ղոդաբուրի, ուսախո, ուբ իր կուբո, միխքոնդատ գիդև կուբո, խորնեպի սավուբարի, դարեք է, դավուբար է, աթոբդա զամթրիս բաղեպս.
Il neigeait sur les jardins d'hiver. Un cercueil noir, emporté, dissous, brisé. Le vent aux cheveux en bataille ouvrait la voie.
Ça va. Ça suffit maintenant.
La route était déserte, sans visage, sans voix.
Grande traversée.
Encore un cercueil.
Devenir Staline.
Становление Сталина.
Quatrième épisode.
J'avoue que je n'avais pas l'intention de parler.
Les mots qui tuent.
Mais notre estimé Nikita Sergeyevitch,
Marie Chartron,
m'a amené de force à cette réunion.
Dici Marianne.
Fais un bon discours, m'a-t-il dit. Mais de quoi parler ?
Joseph Staline, discours prononcé devant les électeurs de Moscou le 11 décembre 1937.
Que dire ? Tout ce qu'il fallait dire à la veille des élections a déjà été dit et redit dans les discours de nos camarades dirigeants. Que pourrait-on encore ajouter à ces discours ?
C'est comme un one-man show.
On me dit qu'il faudrait éclaircir.
Il donne l'apparence de quelqu'un qui est très calme, qui sait ce qu'il fait.
Nino Kertadze, réalisatrice.
Sur quelle question ?
Qu'il est aussi pas dans un intellectualisme que seulement les initiés comprennent, mais il utilise le langage assez simple pour être... Il est avec le peuple.
Ce qu'il fallait éclaircir a déjà été éclairci et suréclairci.
Dans le théâtre où se tient ce meeting, depuis l'un des balcons, les dignitaires du parti applaudissent à tout rompre.
Certes, on pourrait faire un discours futile sur tout et sur rien.
Dans la salle, un océan de spectateurs. Staline, cheveux bien coiffés en arrière,
cela amuserait peut-être le public.
Vareuse boutonnée jusqu'au menton, se lisse machinalement la moustache.
Et donc ces fameux moustaches et les gestuels s'arrêtaient. C'est intéressant aussi les poses qu'il fait, parce que c'est comme un très bon comédien. Enfin, tenir la pose, c'est un art. Il va pas très vite, il est pas nerveux, il est au contraire très posé, presque. Il s'enracine presque sur cette tribune.
Mais puisque je suis monté à la tribune, il faut que je dise au moins quelque chose.
Staline avait un style particulier, il posait des questions et il répondait.
Françoise Thom, historienne.
Est-ce à dire, camarade, que l'ennemi de classe est complètement extirpé ? Non, camarade, il répondait lui-même. Non, il nous reste à faire preuve de vigilance. Et... Son style de pop, hein, de... oui, oui. De... Là, je vois surtout la trace de son éducation au séminaire, hein, cette éducation qui a laissé le côté catéchisme, en fait.
Nous avons du travail par-dessus la tête, comme on dit.
L'URSS s'apprête à élire les deux chambres du Soviet suprême. Ce sont les premières élections législatives depuis qu'est entrée en vigueur la nouvelle constitution de 1936, dite Constitution Staline. Un seul parti est représenté et une année de terreur vient de s'écouler.
Staline voulait absolument avoir l'apparence d'être élu par le peuple. Et c'est en 37 où la terreur bat ses records. Les purges, je pense qu'on fusillait à ce moment-là à peu près 4000 personnes par jour. C'était vraiment l'apogée de tout ce que vous voulez au niveau de cruauté, au niveau des exécutions. Mais il faut garder cette apparence de l'État démocratique comme on n'a jamais vu.
Nous sommes donc en 1937. Et Staline s'apprête à fêter son 58e anniversaire, plus 1, puisque sa date de naissance officielle le rajeunit d'un an. Il est le secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'URSS, à ce titre, à la tête de l'Union soviétique. Il a presque entièrement vaincu les oppositions, a éliminé ou va bientôt le faire Zinoviev, Kamenev, Tomsky, Rykov, Boukharine. Il a fait exiler Trotsky au Kazakhstan, puis l'a banni hors du RSS. Et il le fera finalement assassiner le 21 août 1940 à Mexico. Son pouvoir ne souffre pratiquement plus aucune contestation. Depuis la fin des années 1920, il mène au pas de charge sa révolution. Un grand tournant dont la pierre angulaire est, d'une part, la collectivisation forcée des campagnes sous forme de kolkhoz, des coopératives agricoles d'État, et d'autre part, l'industrialisation accélérée du pays, programmée par le premier plan quinquennal. La planification concerne tous azimuts, l'électrification, la construction d'usines, la gestion des ressources en fer, en charbon, en pétrole, l'industrie chimique, la production du pain, l'exploitation forestière, les transports, la culture.
Le tournant à partir duquel on peut considérer que Staline a pris le pouvoir, c'est le tournant du premier plan quinquennal.
Luba Jurgenson, écrivaine et professeure de littérature.
Qui est donc lancé en 1928 par Staline. Et là, le mot d'ordre qu'on va retrouver dans tous les slogans, c'est la construction. C'est l'idée de construction à la fois d'un monde nouveau, de l'homme nouveau, et surtout le chantier. Toutes les années 30 vont se dérouler sous le signe du chantier. Et le chantier, c'est en général un élément très important des régimes de terreur qui ont besoin de fédérer le peuple autour d'un grand objectif. Et donc cet objectif, c'est la construction, là en l'occurrence, du socialisme. Dans un seul pays, à la différence du slogan de la révolution prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Concrètement, ça veut dire que c'est l'Union soviétique qui construit le socialisme.
Selon Marx et Lénine, le socialisme triomphera grâce à une production abondante de biens matériels et culturels pour le peuple. Cette production sera possible grâce à un rendement encore jamais vu dans l'histoire. Ainsi, le peuple pourra être riche et cultivé.
Staline, discours prononcé à la première conférence des stakhanovistes de l'URSS, le 17 novembre 1935.
Productivité que le capitalisme n'a jamais pu atteindre.
Le cœur de l'usage du chiffre par Staline, c'est l'économie.
Alain Blum, démographe et historien.
Il faut produire tant. Et si ça ne répond pas, on arrête les responsables. Et le plan quinquennal, c'est des chiffres à atteindre, des chiffres à dépasser. Il y a quand même toujours cette idée de... D'abord, ce mythe de la croissance industrielle pour rattraper les États-Unis. Et il y a une sorte de mythe du chantier gigantesque qui serait l'expression de la réussite du communisme stalinien, enfin de la réussite de Staline lui-même.
Si notre production n'augmentait pas, si la classe ouvrière et paysanne n'avait pas un si bon gouvernement qui prend soin d'elle.
Le chantier, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les films, dans les images, dans la presse, dans les périodiques qui sont édités à l'intention de l'étranger.
La vie est meilleure, la vie est joyeuse.
Le chantier, ça justifie tout. Ça justifie les camps, ça justifie les purges, avec en plus des objectifs absolument parfois irréalisables.
L'exploitation n'existe pas chez nous.
Combinat métallurgique Oral-Kouznetsk et Magnitogorsk, centrale hydroélectrique du Dniepr, usine de tracteurs de Kharkiv, Stalingrad, Tcheliabinsk, entreprise automobile de Nijni Novgorod. Les chantiers surgissent en un temps record avec leur main-d'œuvre pléthorique et leur cortège de villes-usines. Comme par exemple la cité ouvrière de Stalinsk, nommée en l'honneur de Staline.
Je pense à un chantier assez emblématique de cette pensée du gigantisme, on dirait, et qui a été un immense échec. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la voie de la mort, qui était la construction d'une voie ferrée dans le Grand Nord, qui devait relier les différents lieux pénitentiaires où on extrayait des minerais, Vorkouta et d'autres grands lieux du goulag dans le grand nord soviétique, là où les hivers sont complètement glacés. Et Staline décide, contre l'avis de la plupart des ingénieurs, de lancer un immense chantier pour construire cette voie ferrée. Il va utiliser naturellement la main-d'œuvre du goulag, quasi exclusivement, pour construire cette voie ferrée. Il y aura une mortalité très forte parce que c'est dans des conditions extrêmement dures. Mais c'est une voie ferrée qui sera d'ailleurs abandonnée dès la mort de Staline, dès 1953. Mais c'est une voie ferrée qui n'est absolument pas viable parce que c'est le permafrost, le sol est gelé tout l'hiver, pendant 6 mois d'hiver, et ensuite commence à fondre, donc les voies ferrées s'écroulent. Donc c'est un chantier qui ne pouvait pas réussir dans les conditions techniques de l'époque. Ça conduira à une main-d'œuvre épuisée et qui meurt facilement, cette main-d'œuvre pénitentiaire, et ça conduira surtout à ce chantier que beaucoup désapprouvent, mais que Staline a décidé de faire, et dont il reste aujourd'hui des traces. Il y a des photos très classiques de locomotives comme ça, abandonnées en pleine toundra, au milieu de la neige, des rails de voies ferrées complètement déformés. C'est vraiment l'expression de cette volonté. On domine la nature, quelle qu'elle soit, coûte que coûte, pour renforcer encore la production de minerais au profit d'une Union soviétique qui suivrait un modèle industriel poussé jusqu'à l'extrême.
Si quelque chose a été décidé, il n'y avait rien qui devenait impossible. Les rivières, si elles allaient à droite, il fallait les mettre absolument à gauche. Enfin, que ça soit gagner de la guerre ou que ça soit être le héros de travail ou éradiquer toute la vermine et identifier les ennemis des peuples de partout, rien n'était dans la mesure de normalité. Tout était vraiment poussé à l'extrême. Et rien ne pouvait les arrêter vers cette marche qui menait vers le paradis sur terre ou l'avenir radieux de communisme. C'est le peuple qui s'arrête devant rien et qui avance vers le paradis terrestre. Comment construire ce paradis terrestre ?
Lazar Kaganovitch, discours enregistré en 1938 à l'occasion des célébrations de la journée du cheminot.
Aujourd'hui, à l'occasion du 3e anniversaire de notre fête, de notre journée, nous, les cheminots, nous pouvons dire au gouvernement, nous pouvons dire aux camarades Staline, nous n'avons pas toujours travaillé sans heurts, pas toujours de manière stable, pas toujours dans les délais, et même maintenant, nous ne les respectons pas.
Ce mot d'ordre du chantier exige que l'on explique pourquoi le chantier n'avance pas aussi vite que promis. Et donc, il faut trouver des ennemis qui vont empêcher l'avancée du chantier.
Si nous considérons les résultats de ces 3 années de lutte, alors dans l'ensemble, nous parvenons à la conclusion suivante. Et nous disons, camarade Staline, camarade du comité central et membre du gouvernement, nous, les cheminots, avec toute l'armée de la classe ouvrière, nous avons en grande partie purgé les ennemis du transport ferroviaire. Nous avons encore quelques groupes d'ennemis. Nous ne devons pas nous vanter. Nous ne devons pas perdre notre vigilance. Mais nous les avons nettoyés à fond.
La langue va être en quelque sorte militarisée, c'est-à-dire des mots issus du vocabulaire militaire ou du vocabulaire de la guerre vont être appliqués à des situations de tous les jours, et notamment au travail. On aura des héros du travail, le travail va être assimilé par exemple à un assaut, à une attaque. Les détenus du premier camp du goulag, du premier grand chantier stalinien, qui est le chantier du canal Baltique-Mer Blanche, vont être désignés comme étant des combattants du canal. En réalité, ce sont des détenus et des travailleurs du canal, mais ils vont être assimilés à des combattants. Donc le travail va être décrit, va être vécu et va être mis en valeur avec des mots qui, en réalité, désigne le combat. Et bien sûr, on aura toujours ce combat pour la construction du socialisme. Tout est combat, tout devient combat. Et tout le monde devient combattant. Et quand on est combattant, ben on n'a pas le droit de déserter. Donc c'est aussi cette militarisation par les mots qui justifie la terreur, qui justifie la répression contre tous ceux qui, en tant que combattants, ont failli. Un combattant qui n'est pas là pour combattre, c'est un déserteur. Il mérite d'être fusillé. Donc c'est comme ça que le langage crée aussi un certain rapport au travail.
La langue désigne de nouvelles catégories. Catégorie positive, travailleur de choc ou héros du travail, et à l'opposé, coulaque, mercenaire du capital, élément socialement nuisible, chien enragé du fascisme, espion trotskiste boukharinien ou bien encore germano-japonais, terroriste, diversionniste, agent des renseignements étrangers, crime de sabotage et saboteur qui les commettent, vol de la propriété socialiste. Et comme dans la langue performative, dire, c'est faire advenir, les ennemis du grand chantier socialiste sont partout.
Malsain aujourd'hui le jour, le cœur de grillon sommeil, les rocs abris plus lugubres que nuit de pierre tombale, vibration d'un vol de flèches, cri des corbeaux prophétiques. Je fais un rêve malsain, l'instant vole après l'instant, écarte les apparences.
À l'opposé de la langue performative qui tue, celle du poète Ossip Mandelstam ne parvient pas à se plier aux nouvelles normes, en particulier celles instaurées par le canon esthétique et politique du réalisme socialiste. C'est sa voix que l'on peut entendre ici, dans l'un des rares enregistrements auxquels il s'est prêté, à deux reprises seulement, en 1920 et 1925. D'abord envoyé en exil, Mandelstam est finalement déporté au Goulag, où il meurt en 1938.
Quand on dit culture stalinienne, culture de l'époque stalinienne, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est bien sûr le réalisme socialiste. C'est-à-dire cette méthode de création qui a été imposée progressivement, d'abord aux écrivains et ensuite aux représentants de tous les autres arts. Et le réalisme socialiste, ce n'est pas un style, ce n'est pas un genre, c'est une méthode. Et c'est une méthode qui consiste à décrire la réalité dans son développement révolutionnaire. Ce qui veut dire que si vous voyez un terrain vague inondé de boue, en fait, ce qu'il faut y voir, c'est la belle maison qui sera construite sur ce terrain envahi par la boue lorsque le chantier sera terminé. Donc, qui ne sait pas voir dans la réalité présente cette belle réalité future risque très fortement d'être éliminé.
Et nous avons décidé
de solliciter Joseph Staline, discours prononcé à la première conférence des stakhanovistes de l'URSS le 17 novembre 1935.
Je regarde ça, mais c'est horrible. C'est vraiment comme une espèce de secte, en fait. Ils sont tous ensorcelés.
Nino Kirtadze.
Je ne sais pas quelle est la part de jeu et quelle est la part de vrai, mais c'est clair que là, n'importe qui est dans cette salle a l'impression d'appartenir à quelque chose de grandiose que personne n'a jamais vu. Du coup, n'importe quel moyen est justifié pour arriver à ses fins.
Est-ce que vous approuvez cette décision, camarades ? Nous arrangeons cela.
C'est le tempo aussi de ces applaudissements qui disent long sur cette période, cette époque, les réactions de la salle, parce que on voit, il est de Tadjik, il y a un. L'autre qui est dans un état d'exaltation extrême, qui est tellement heureux qu'on dirait qu'il va fondre en larmes. C'est comme vraiment une espèce de numéro d'un sorceleur. Sauf que les ensorcelés sont immensément nombreux, quoi.
La rencontre avec une force irrationnelle, avec une fatalité irrationnelle, avec une horreur irrationnelle, a fortement modifié notre psychisme.
Extrait des mémoires de Nadejda Mandelstam, épouse d'Ossip Mandelstam.
Un grand nombre d'entre nous ont cru que ce qu'il se passait était inévitable, et les autres ont cru que c'était bien ainsi. Tous ont pris conscience que c'était sans retour. Ce sentiment était dicté par l'expérience du passé, le pressentiment de l'avenir et la fascination du présent. J'affirme que nous étions tous, dans les villes encore plus que dans les campagnes, dans un état voisin du sommeil hypnotique. On nous avait effectivement persuadés que nous étions entrés dans une ère nouvelle, et il ne nous restait qu'à nous soumettre à la fatalité historique, qui d'ailleurs coïncidait avec les rêves des meilleurs de ceux qui avaient combattu pour le bonheur de l'homme.
Nikita Khrouchtchev, discours devant les électeurs du district de Kountsevo, 1937.
Camarades, chaque ouvrier, chaque kolkhozien sait que les victoires qui ont été remportées dans notre pays, nous les devons au plus grand homme, au plus grand génie de l'humanité, notre grand Staline.
Svetlana Alilouyeva, fille de Staline.
Jusqu'au début de la guerre en Europe, mon père venait presque chaque jour à la maison, d'ordinaire pour déjeuner avec ses camarades. Lorsqu'il passait dans le corridor, son manteau encore sur les épaules, près de ma chambre, il m'appelait. « Patronne, comment dire-cha ?» J'abandonnais mes cahiers et courais le rejoindre dans la salle à manger, une grande pièce au mur barricadé de livres où se dressait un énorme buffet ancien, ciselé, contenant les tasses de maman. On avait construit une salle de cinéma au Kremlin, sur l'emplacement de l'ancien jardin d'hiver qui rejoignait par des allées le vieux palais du Kremlin. Nous nous y rendions vers 8-9 heures du soir, heure tardive pour moi, mais je suppliais mon père et il ne pouvait refuser. Il disait en riant, et en me poussant vers l'avant. « Eh bien, emmène-nous, patronne. Sans guide, on risquerait de s'égarer. » Et je marchais au devant d'un long cortège en route vers l'autre extrémité du Kremlin. Le cinéma finissait tard, vers 2 heures du matin, car nous voyons toujours deux films, sinon davantage. Combien de films ont commencé leur carrière triomphale sur ce petit écran du Kremlin ? Tchapaïev, la trilogie de Maxime, les films sur Pierre Ier, le cirque et Volga-Volga. Les meilleures réalisations de cinéma soviétique ont fait là leur premier pas.
а приедем будущей осенью.
Svetlana a une dizaine d'années et elle est orpheline de mère. Nadejda Alilouyeva, la seconde femme de Staline, s'est suicidée d'un coup de pistolet au Kremlin un soir de 1932, à 31 ans. Si de nombreuses légendes planent sur cette mort, du vivant de Staline, c'est surtout le silence qui l'enveloppe. Aller au cinéma avec Staline n'est pas un simple divertissement destiné à sa fille orpheline. La salle de projection est aussi l'un des lieux du pouvoir où se rendent en groupe les dignitaires du régime presque quotidiennement. On y lit des scénarios et on y voit de tout, sous l'impulsion de Boris Choumiatsky, qui travaille à la direction du cinéma soviétique. Des westerns ou des comédies musicales venues des États-Unis, des films européens qui sont traduits simultanément pendant le visionnage et tout ce qui se fabrique en Union soviétique. Le cinéma est planifié au même titre que tout le reste. L'URSS entend concurrencer Hollywood et produit par exemple des comédies musicales dès les années 30.
Staline appréciait ces comédies musicales, il les regardait, ces comédies qu'on a d'ailleurs qualifiées par la suite de comédies staliniennes. Hein. Il était totalement subjugué par ce type de cinéma.
Christian Feigelson, sociologue.
Ce modèle stalinien, sous l'impulsion de ce retour à Hollywood, va faire toute une série de comédies musicales à l'américaine. Donc on aura parmi d'autres Les Joyeux Garçons en 1934, qui est une comédie de Grigori Alexandrov. Et là, la chanson doit servir le pouvoir soviétique. On a d'autres films de cette époque, comme Volga Volga, du même Grigori Alexandrov, en 1938, où le fleuve devient la métaphore d'un peuple victorieux. Les Tractoristes d'Ivan Perieff, en 1938, qui est l'éloge de la collectivisation. Et puis dans l'après-guerre, ce film très très connu, qui aura eu un grand succès même en France, qui, malgré la collectivisation, les famines, etc., va montrer dans un film choral les Cosaques du Kouban, c'est-à-dire toute cette partie sud de la Russie en 1950, qui est totalement mythifiée par ces paysans chanteurs qui montrent la vie devenue vraiment joyeuse au sens où l'entendait Staline. Donc on a aussi, là, toute une série de films s'inscrivant dans les lignes de ce que sera ce cinéma stalinien, à être éducatif, populaire et joyeux, entre guillemets.
Staline encourage la création d'un festival international du film à Moscou et demande au cinéaste Sergueï Eisenstein, pourtant en porte-à-faux avec le pouvoir, d'en être le président. En 1935, le premier prix revient à Tchapaïev, de Sergueï et Georgi Vassiliev, un film que Staline aurait regardé 38 fois en l'espace de 2 ans.
What do you want?
I want to stay in Moscow.
Le deuxième prix revient au Dernier milliardaire, de René Clair, et le troisième prix à un dessin animé, Les Trois Petits Cochons, de Walt Disney.
Une grande partie de ce public soviétique était aussi plutôt sensible à l'aspect ludique de cinéma de divertissement dans un monde qui était un monde de terreur et de grisaille quand même. 1936-1937, c'est la grande terreur. C'est plus d'un million de gens qui vont être exécutés. C'est l'assise d'un système, d'un pays totalement fermé à la veille de la Seconde Guerre mondiale et où sont installés du nord au sud en passant par le Kazakhstan jusqu'à la Sibérie orientale, un système de camps qui est terrifiant. Donc c'est ce que Tarkovsky appellera bien plus tard la zone grise. On est en permanence dans un système totalitaire où on ne sait pas si votre voisin va vous dénoncer et si vous allez être le prochain envoyé dans un de ces camps et dans cette zone grise dont on a entendu parler et dont on sait qu'on n'en revient pas. quand même plus de 26 millions de soviétiques et autres, pas que des soviétiques, ont été envoyés dans ces camps de travail.
Anastas Mikoyan, discours enregistré au Théâtre Bolchoï à Moscou le 20 décembre 1937, à l'occasion du 20e anniversaire de la Tcheka GPU NKVD.
Dans le district de Pugachevski, le pionnier Kolya Jiglov du village de Starye Poryabushki, né en 1923, a officiellement rapporté par courrier au chef du service régional du NKVD que son père, Jiglov Ivan Nikolaevich, était impliqué dans le vol de matériaux de verre et de construction. Il a été arrêté et une grande quantité de matériel a été trouvée au domicile de ce Jiglov. Le pionnier Kolya Jiglov sait ce que le pouvoir soviétique est pour lui, pour tout le peuple. Dorénavant, son père n'est plus un père pour lui, ce père qui vole la propriété socialiste. Il a dit au NKVD de détruire son père, car il est un ennemi du peuple. Voilà quelle personne nous avons, camarades. Voilà quel pionnier nous avons. C'est là que réside notre force et notre pouvoir, dans le peuple.
Seuls les enfants n'avaient pas perdu leur babil pleinement humain.
Nadejda Mandelstam.
Et les adultes, qu'ils fussent comptables ou écrivains, préféraient leur compagnie à des conversations avec leurs égaux. Personne ne faisait part de ces doutes aux enfants. Pourquoi les vouer à la mort? Et si l'enfant disait un mot de trop en classe et entraînait la perte de toute sa famille? Et les enfants grandissaient et venaient grossir le rang des hypnotisés.
Ça me rappelle la lecture que j'avais lue d'un historien qui parlait de la Pravda, de la une de la Pravda.
Thierry Robin, dessinateur et scénariste.
Qu'il ne fallait pas lire en tant que tel, il ne fallait pas lire vraiment les articles, mais il fallait décrypter l'emplacement des articles, la taille des photos. C'est-à-dire qu'on pouvait comprendre ce qui se passait dans le gouvernement soviétique de l'époque juste en analysant graphiquement la une de la Pravda. Si d'un jour à l'autre la photo de tel personnage réduisait en taille, c'est qu'il était en déclin et qu'elle allait bientôt disparaître.
Nicolas Werth, historien.
Il faut bien comprendre que la Grande Terreur se déploie sur deux plans. D'abord, la purge, c'est-à-dire l'arrestation puis l'exécution d'une partie de la nomenklatura du parti qui est considérée par le groupe stalinien comme peu fiable parce que ce sont tous ces gens qui ont connu l'époque léniniste, qui se sont peut-être à un moment ou à un autre opposés aux options staliniennes. Donc ce sont tous ces gens qui vont faire partie de la grande charrette de cadres du parti purgés en 1937-38 et remplacés par une nouvelle génération de jeunes communistes entièrement dévoués à Staline qui n'ont pas connu la période révolutionnaire, qui n'ont pas connu la période de la guerre civile. Donc, pour cette première catégorie, des listes sont établies par la police politique et aussi évidemment par les organismes de contrôle du parti. Et donc on sait que par exemple, environ 44 000 personnes ont figuré sur ces fameuses listes, à peu près 400 liste donc d'environ chaque fois une centaine de personnes qui ont été signées par Staline, Voroshilov, Molotov, Kaganovich, Danov, Mikoyan, donc pour exécution Donc ça, c'est une première catégorie de victimes de la Grande Terreur. Mais ce que l'on a appris au début des années 90 avec l'ouverture des archives, c'est que cette purge des élites n'était qu'une toute petite partie de l'ensemble des victimes de la Grande Terreur, puisque la plupart des victimes n'étaient pas des membres du parti, mais étaient des gens considérés par le régime comme socialement nuisibles, soit les anciens koulaks déportés, soit ceux qu'on appelait les gens du passé, c'est-à-dire les membres du clergé, des élites tsaristes, des anciens opposants au parti, des soviétiques d'origine polonaise ou d'origine allemande ou d'origine lettonne qui étaient soupçonnés d'entretenir des liens avec les puissances étrangères opposées à l'Union soviétique. Bref, toute une série de catégories de gens qui sont ciblés depuis des années et que le groupe stalinien décide d'éliminer à un moment donné, justement à partir de l'été 1937, parce que Staline a pris conscience de l'inéluctabilité d'un grand conflit mondial, et ça depuis en particulier la guerre d'Espagne. On sait que Staline était très intéressé et fasciné par les événements d'Espagne, et en particulier par la notion de cinquième colonne qui a été développée par les franquistes espagnols. Donc la cinquième colonne, c'était, selon l'expression du général Mola, des ennemis infiltrés, une sorte d'ennemis de l'intérieur. Et donc Staline a été absolument fasciné par cette idée de cinquième colonne et il l'a transposée sur le cas de l'Union soviétique en considérant que toute une série de catégories sociales ou ethniques étaient suspectes et donc représentaient des ennemis de l'intérieur. Et donc en août 1937, de concert avec Nikolaï Iejov, le chef du NKVD, donc très proche de Staline, ont été émis toute une série d'ordres opérationnels du NKVD qui ciblaient des catégories de gens à éliminer, région par région, avec des quotas.
C'est là que ça va très très loin. On sait que lors de la Grande Terreur de 1937, il y a une sorte d'échange entre les régions et le centre, et le ministère de l'Intérieur, enfin le NKVD, envoie des chiffres en disant « là, vous devez réprimer tant de personnes ». C'est pas « vous devez réprimer les coupables » ou les soupçonnés coupables, c'est « vous devez arrêter et fusiller tant de personnes par région ». Et les régions renvoient le nombre de personnes fusillées ou arrêtées. Et c'est là qu'on voit comment l'usage du chiffre est fascinant chez Staline. C'est-à-dire, il envoie tout ça, et le personnel local des organes répressifs, ils vont chercher dans leurs fiches pour arriver à avoir ce nombre de personnes, et pour le dépasser, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, dans les répressions, comme pour les plans quinquennaux, il faut dépasser les objectifs fixés par le centre. Donc, il faut arrêter et fusiller plus de gens que dans les objectifs fixés. Effectivement, le chiffre, c'est vraiment un moyen central de gouvernement chez Staline. Il y a d'autres moyens pour imposer ses ordres, mais c'est vrai que dans sa manière d'exprimer, en fait, ses volontés, le chiffre est essentiel.
C'est une construction idéologique qui rend impossible l'idée qu'un jour on dise « camarades, ça y est, on a tout construit, maintenant vous pouvez vivre tranquillement ». Donc c'est un mécanisme qui s'autogénère en permanence. Voilà, et qui conduit à une, inévitablement, à des répressions qui vont frapper de sans cesse de nouvelles catégories de la population. On peut pas dire « ça y est, on a éliminé tous les bourgeois et maintenant tout va bien ». C'est impossible.
Nous vivions dans un monde où chacun était à la merci de la police secrète et devait informer les autorités de nos pensées et de nos sentiments. On se servait des gens ayant des tares biographiques ou psychiques. On intimidait l'un parce qu'il était fils de fonctionnaire, de banquier ou d'officier de l'ancien régime. Et on promettait à l'autre protection et faveur. On se servait de ceux qui craignaient de perdre leur place ou voulaient faire carrière, de ceux qui ne voulaient et ne craignaient rien, de ceux qui étaient prêts à tout. On ne cherchait pas seulement à obtenir des informations par leur intermédiaire. Rien ne lie autant que la complicité dans le crime. Plus il y avait de personnes salies, compromises, impliquées dans les affaires, plus il y avait de traîtres, de mouchards et de délateurs. Et plus le régime avait des partisans souhaitant qu'il dure des millénaires.
L'époque stalinienne, c'est l'époque principalement de presse écrite et de radio.
Emilia Kustova, historienne.
La radio qui est diffusée parfois par les haut-parleurs dans les rues, ou encore, une autre dimension très importante, ce sont les postes de radio installés dans les appartements communautaires, généralement dans la cuisine, où ces postes fonctionnent en continu avec une seule fréquence. On ne change pas de fréquence, c'est une sorte de fond sonore diffusé en permanence auquel on ne peut pas échapper, puisque ça peut être mal vu d'étendre ce poste, ça ne se fait pas. Et à l'époque stalinienne, ça peut conduire même à provoquer de la méfiance et des soupçons de la part des voisins de ce monde d'appartement communautaire. Donc ce fond sonore qui diffuse en permanence les actualités, les discours, ça participe à l'éducation soviétique au sens très large, qui explique aussi pourquoi Staline occupe telle place, même si ce n'est pas nécessairement sa parole qui est diffusée en permanence.
Dans les oreilles des soviétiques, des chansons, des poèmes, des conférences scientifiques, et en mars 1938, le procureur Andrei Vyshinsky, qui accable 21 accusés silencieux, tous passés aux aveux et presque tous condamnés à mort.
Enfant, je pouvais utiliser des expressions dont j'ignorais totalement qu'ils venaient de l'argot des truands, et que ces expressions étaient utilisées dans des situations absolument sordides. Mais c'était passé dans la langue commune. Je peux donner un exemple. L'expression « «Молчи в тряпочку». ». Littéralement, c'est « «Tais-toi dans le chiffon». ». Ça veut dire « «Tais-toi, tu as un chiffon sur la bouche ou dans la bouche. En fait, tu as un bâillon, tu es bâillonné». ». Et c'est une expression qui, je crois qu'elle est assez imagée, on voit bien qu'elle désigne un acte de violence sur quelqu'un qui ne peut pas parler. Donc ça peut être un viol, ça peut être un meurtre, ça peut être un passage à tabac, tout ce qu'on veut. Mais nous, on l'utilisait pour dire « «ta gueule» » au collège. Voilà, c'est un exemple de la façon dont la violence se diffuse. Mais on ne sait pas, quand nous on l'utilisait, on n'imaginait pas la violence qu'il y avait derrière. On trouvait cette expression très drôle.
Lorsque nous nous rencontrions, nous parlions à voix basse et jetions des regards vers la cloison, nous demandant si les voisins n'étaient pas en train d'écouter, si on n'avait pas branché un magnétophone. Lorsque je suis revenue à Moscou après la guerre, j'ai vu que chez tout le monde, le téléphone était recouvert d'un oreiller. Le bruit avait couru que des appareils enregistreurs y avaient été installés. Et tous les locataires tremblaient devant le témoin qui épiait leurs pensées secrètes. Personne n'avait confiance en personne, et nous soupçonnions chacun de nos amis d'être un mouchard. On avait parfois l'impression que le pays tout entier était frappé par la manie de la persécution. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas guéris de cette maladie.
J'ai l'impression d'ailleurs souvent que ce pays-là, il se sépare entre les cris des prisonniers du goulag, mis à mort de façon atroce dans des boulots totalement inutiles, et puis le silence qui régnait en ville, dans les communautés, dans les familles, où on arrive à une situation où les parents ne peuvent même plus parler le soir à table aux enfants, de peur que un mot, une phrase soit répétée, interprétée au niveau scolaire et que ça retombe sur la tête des parents. Ça devait être une situation vraiment atroce. Le régime de terreur était parfaitement au point à cette époque.
Штрак, Мария Петровна. Лозановская, Федосия Васильевна. Кузнецова, Нина Юрьевна. Кверикадзе Стуруа, Фатула Васильевна. Джавадов Энвер Джавадович. Ааб Карл Генрихович. Есаян Гарегин Левович.
Originaire de toutes les régions de l'URSS.
Вивьян Шнорик Карапетовна.
Réprimé,
Адушеева, Софья Шойжова.
И parfois réhabilité.
Мазарханова Анжива Жамьяновна. Квицаридзе Шалва Самсонович. Лаканин Юха Ялмар Августович, Лаакса Рауха Андреевна, Жак Мария Корнеевна, Микулаш Век, Ванда Швастовска-Бистрам, Елена Постник, Уланов Иван Павлович, Раимов Лукман Муртазич, Алексеенко Галина Ивановна.
Manana Armetelli, musicienne. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la connaissance de mon grand-père. Il a été fusillé le 29 juin 1937. Et au mois d'avril de l'année suivante, je suis venue au monde.
Manana Armetelli est la petite-fille du grand metteur en scène géorgien Sandro Armetelli, victime des répressions massives qui n'épargnent pas les artistes.
Regardez le visage de Staline. Il est souriant sur cette photo de 1930. Et mon grand-père aussi. Tous les deux sont heureux. Ils sont montés en coulisses après le spectacle, qui avait été un grand succès. Et tous ceux qui les entourent aussi. On voit Kirov et toute l'élite politique de l'époque. On peut lire l'étonnement et l'enthousiasme sur leur visage.
En 1930, il est invité avec d'autres représentants des différentes républiques de l'Union à se produire aux Olympiades théâtrales à Moscou, qu'il remporte avec sa pièce « L'Amara ». Staline arrive en retard, il veut voir le spectacle, on reconstruit le décor à la hâte pour une seconde représentation, à l'issue de laquelle une photo l'immortalise avec Sandro Armetelli et entre autres Sergueï Kirov, Mikhail Karyani, Sergo Orjonikidze.
Après cette photo, ils ne se sont plus jamais rencontrés. Sandro Armetelli a toujours espéré que Staline ne s'en prendrait pas à lui, qu'il ne le mettrait pas entre les mains des purgeurs. Il espérait, mais il s'est trompé. Staline n'a pas protégé Armetelli. Il l'a sacrifié, c'est évident.
Le metteur en scène, pourtant adoubé par les autorités soviétiques et jouissant d'une reconnaissance internationale, est poursuivi personnellement par Lavrenti Beria, qui est alors à la tête du Parti communiste de Géorgie. Lui sont reprochés son formalisme, et son nationalisme. Et dans son acte d'accusation, figure également qu'il est un agent à la solde de l'Europe et des États-Unis.
Le 19 novembre 1936, il est arrêté à Moscou. Il le ramène à Tbilissi, le met à l'arrière d'un camion avec des menottes aux mains et l'exhibe le long des rues principales, le font passer devant les théâtres Marjanichvili et Roustavéli. Puis, il le jette dans les cellules du NKVD, où il vivra le martyr pendant 220 jours.
Selon la formule officielle de l'accusation, Sandro Armetelli était exilé dans un camp lointain, sans autorisation de correspondre avec sa famille. Et donc, dans la famille, il y avait la conviction qu'il était vivant quelque part et qu'un jour il serait libéré. Sa mort n'avait pas été annoncée. Ce n'est qu'après la réhabilitation qu'on a su. Cela a eu lieu en 1956. La famille a reçu une petite carte déchirée où il était écrit qu'il était innocent. On a appris au même moment qu'il avait été exécuté, fusillé comme ennemi du peuple et jamais exilé. Et cela a été un nouveau choc pour mes parents, particulièrement pour mon père, car il avait toujours cru que son père était vivant et qu'il reviendrait. La famille a découvert qu'elle vivait dans l'illusion et le mensonge jusqu'à la réhabilitation. Comment la famille a vécu tout cela, c'est difficile à dire. Je me souviens de grandes difficultés et d'une période de souffrance avant la réhabilitation. Je me souviens que mon père était isolé socialement. Les gens nous évitaient. Pendant 20 ans, jusqu'à sa réhabilitation, le nom de Sandro Armetelli n'a pas été prononcé. Et l'histoire du théâtre géorgien s'est écrite sans lui. Son nom était tabou. Et même après la réhabilitation, mon grand-père a continué à faire l'objet de calomnies et de persécutions posthumes. Et il était très difficile de restaurer la justice. C'était quelque chose de très puissant, comme une sorte de pression qui ne cesse pas. D'ailleurs, tous ceux qui ont été réhabilités ont eu des vies très difficiles. Je me souviens d'un incident. Il y avait un acteur de théâtre célèbre, je ne veux pas le nommer, qui se considérait comme un disciple de Sandro Armetelli. Il nous a invités à venir dîner chez lui avec d'autres comédiens. Quand nous sommes arrivés, c'était un peu étrange. Je me souviens que chez lui, c'est souvent comme ça chez les comédiens, le mur était recouvert de photos d'acteurs et de représentations théâtrales. Et sur les photos où Sandro Armetelli se trouvait, son visage était effacé. Il avait vraiment été gratté sur toutes les photos. Cela a été terrible pour mon père. Cela se voyait sur son visage et ça m'a profondément marqué, même si j'étais très jeune à l'époque. Sur les portraits ou les photos de groupe, partout où nous allions, des visages étaient effacés, comme des ombres. Comme je vivais dans une famille réprimée, que j'y grandissais, j'avais un instinct de prudence plus aiguisé, en alerte. C'était une atmosphère un peu particulière. Il y avait comme un jardin secret, une censure intérieure. J'ai essayé de m'en débarrasser, mais cela m'est resté. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait demandé explicitement de ne pas dire ceci ou cela, de ne pas utiliser tel mot ou telle phrase. Chez moi, c'était un réflexe naturel. Notre mode de vie et notre situation familiale produisaient cette censure intérieure. Et cela fait maintenant partie de ma vie et de ma personnalité. Vous savez, peut-être qu'on est libre maintenant, mais certaines choses restent. Quand j'étais une enfant, puis une jeune femme, j'étais prudente avec les mots. Et cette prudence m'accompagne toujours. Non que je ne sois pas sociable, bien au contraire, j'ai une sociabilité très riche. Et le nom de mon grand-père m'a beaucoup aidée après la réhabilitation. Beaucoup de bonnes choses me sont arrivées grâce à ce nom, dont je suis fière. Quand les gens apprennent que je suis la petite fille de Sandro, ils réagissent toujours avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une réalité. Mais je dois vous avouer qu'il reste dans mon cœur cette censure intérieure. Je suis toujours prudente avec les mots.
Ванда Швастовска-Бистрам. Елена Постник, Уанов Иван Павлович, Раимов Лукман Муртазич, Алексеенко Галина Ивановна.
Il y a un très beau texte de Platonov qui s'appelle Tchevengour, où il imagine une société qui a réussi à détruire l'ennemi, et elle découvre à chaque étape de destruction de l'ennemi que le bonheur n'est toujours pas là. Le bonheur n'advient pas. Donc on élimine d'abord les plus riches, puis après les un peu moins riches, puis finalement on élimine les pauvres, et en fait on se rend compte que les seules personnes qui ne possèdent rien, ce sont les morts, et que c'est une société qui va, dans sa quête du bonheur, elle va en fait détruire tout le monde.
Devenir Staline. Quatrième épisode, Les mots qui tuent. Avec Manana Armetelli, Alain Blum, Christian Feigelson, Nana Janelidze, Luba Jurgensson, Nino Kirtadze, Emilia Kustova, Thierry Robin, Françoise Thom, Nicolas Verte, et les voix de Marlène Goulard, Hervé Pierre et Julie Pouillon. Merci à Irma Jajanashvili et Irma Inaridze pour les contacts et les traductions en Géorgie, à Maroussia Ferry et à Valérie Kislov pour son travail de recherche dans les archives soviétiques et ses traductions. Documentation Anne-Lise Signoret. Documentation musicale Antoine Vuillose. Documentation INA Sophie Enoch. Prise de son Benjamin Thuot, Stéphane Foulon et Julie Garot. Mixage, Manuel Couturier. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Coordination, Christine Bernard. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Une grande traversée de Marie Chartron, réalisée par Diffie Mariani.